Le Parlement camerounais reste très net. Ni la France ni les États-Unis n'ont le droit de s'ingérer dans les affaires intérieures du pays, et ce sur base des prétextes droits de l'hommiste, surtout que l'administration Biden donne l'impression d'en user et d'abuser, non seulement face au Cameroun, mais aussi face à tout autre pays s'opposant au maximalisme américain, et la Russie, l'Iran, la Chine, etc. y passent évidemment. Il y a quelques semaines, l'ambassadeur américain au poste à Yaoundé, se référant à un pseudo-rapport de Human Rights Watch qui accusait l'armée camerounaise d'un raid militaire, l'une des pires perpétrées par l'armée camerounaise ces dernières années, exigeait l'ouverture d'une enquête. Évidemment, monsieur l'ambassadeur semble avoir oublié tous les crimes anti-afro-américains commis quotidiennement sur le territoire US. Ni non plus ces exactions de masse à l'encontre des enfants immigrés détenus dans des camps sur les frontières avec le Mexique. Presque au même moment, le Sénat français se penchait sur cette pseudo-affaire anglophone et au milieu de la répression des vagues de manifestations de Français dans les rues de Paris et les grandes villes, et exigeait qu'un changement de comportement du gouvernement français vis-à-vis du Cameroun. Le Sénat reformulait les accusations américaines à l'encontre du régime Paul Biya. Au Cameroun, il y a une dictature, il y a des massacres, c'est factuel. Alors me répondre que mes propos sont contre la France, alors je demande d'agir pour que ces massacres cessent, c'est du niveau de Staline avec ses opposants politiques, martèle le député tout en poursuivant. Le déni postcolonial français est très inquiétant et ces vieilles méthodes de la France-Afrique nous mènent dans le mur vis-à-vis de l'Afrique et l'Europe avec, et c'est très grave. Puisque pour des raisons historiques et géographiques, depuis le Brexit, la France est la première porte d'entrée de l'Union européenne sur le continent africain. Se soucier de ce comportement français en Afrique, c'est une question éminemment européenne aujourd'hui, estimait alors Sébastien Nadeau. Il est vrai qu'en dépit de tout acte de sabotage, le Cameroun a merveilleusement surmonté la crise anglophone et va de l'avant sur la scène de la politique internationale, et ce, dans un cadre souverain. De plus, les agences de presse ont fait état d'un cadre de consultation politique avec l'Algérie, pays maghrébin cible de tous les complots US OTAN. Cet accord officialise et encadre des relations très fraternelles, y donne un cadre juridique à ces consultations et ouvre la voie beaucoup plus dans l'avenir, a déclaré le ministre algérien au sortir de l'audience. Il est donc question, selon le diplomate algérien, et de commun accord avec son homologue camerounais, d'élargir davantage et redynamiser. C'est un signe qui ne trompe pas. Le Cameroun se rapproche de plus en plus du front antinéocolonialiste. Après la mort subite du président tanzanien, que certaines sources qualifient de coup préparé, notamment après ses prises de position contre le vaccin anti-Covid fabriqué par l'Occident, un autre assassinat serait-il en cours? C'est le Madagascar qui se trouve désormais dans la ligne de mire occidentale, et c'est via des articles publiés sur France Info ou encore Le Monde qu'on tente de faire croire que le Madagascar se trouve dans une situation délicate, et ce alors qu'en un an, le pays a enregistré 360 décès pour 25 millions d'habitants, 120 fois moins que la France par million d'habitants. André Rajoelina persiste et signe, un an jour pour après sa première prise de parole pour annoncer la fermeture des frontières de Madagascar à cause du Covid-19, le chef de l'État a évoqué lors d'une émission spéciale à la télévision, samedi 20 mars, ses doutes quant aux bienfaits de la vaccination. Nous ne sommes pas contre le vaccin, mais nous sommes en phase d'observation pour le moment. Il y a trop d'effets secondaires. Personnellement, je ne suis pas encore vacciné et je n'ai pas l'intention de me vacciner, a déclaré le président en montrant face caméra une boîte de CVO Plus, la formule galénique du remède traditionnel à base d'Artemisia Covid organique CVO qu'il a lancé il y a plus d'un an. La production de CVO et de CVO Plus, dont André Rajoelina a fait le fer de lance de sa stratégie sanitaire, s'est accélérée pour faire face à la seconde vague de contamination que connaît aujourd'hui Madagascar. Bien qu'aucune étude scientifique ne vienne pour le moment étayer les effets thérapeutiques de ces remèdes, la tisane devrait être bientôt distribuée gratuitement au niveau des Fokonti, sort de mairies de quartier et des centres de santé de base. Il y a donc une forme de fausse campagne pour manipuler les propos du président malgache. La réalité est qu'après le fameux vol d'Air France au Cameroun, après les tentatives d'introduction du virus en RDC, au Mali, au Burkina et au Niger, les peuples africains ne veulent plus se soumettre aux assauts biologiques d'une puissance colonialiste dont les médecins défendent éhontément à l'antenne publique leurs crimes commis en Afrique dans le cadre d'expérimentations médicales. Alors qu'au Sénégal, le président Macky Sall fait preuve d'une résistance qui fait plier Paris, les médias mainstream se sont mis à raconter un récit dans lequel la France est en position de victime et se dit troublée par les manifestations au Sénégal. Quatre entreprises ont particulièrement fait les frais des troubles qui ont agité le pays après l'arrestation d'Ousmane Sonko. Eiffage, Total, Orange et Auchan. Le pays a connu entre le 3 et le 8 mars un nombre de morts inédit, entre 10 et 13 selon les bilans du pouvoir et de l'opposition. Une autre question s'est posée dans les jours qui ont suivi les émeutes. Le pays de la Teranga, l'hospitalité en Wolof, est-il saisi par une poussée de fièvre anti-française? Ce sentiment diffus qui a gagné certains pans de la jeunesse africaine. Des enseignes venues de l'Hexagone ont subi la foudre directe des manifestants sans que le sens de cette vindicte ait pu être identifié, lit-on sur Le Monde. Mais l'article oublie ou plutôt fait exprès de ne pas préciser les chiffres d'affaires de ces entreprises au Sénégal. Le chiffre d'affaires total du groupe Sonatel s'élève à 1206 milliards en hausse de 2,3% plus 28 milliards par rapport à 2019. Le chiffre d'affaires d'Auchan Retail pour 2020 est stable en comparable, mais en baisse assez sensible en variable, moins 5,2% à 31,6 milliards d'euros du fait des taux de change et de l'essence. Ce n'est pas tout. La barre symbolique des 10 millions d'abonnés mobiles est dépassée avec plus d'un million de nouveaux clients Orange, recrutés en 2020 représentant 85% des nouveaux clients du marché. Les géants franco-américains ne se privent de rien afin de piller les pays africains et les déstabilisations sont l'un des premiers outils de cet axe néocolonialiste afin de mettre la main sur les ressources d'un pays stratégique comme le Sénégal et ensuite jouer le rôle des victimes en prétendant que ces déstabilisations nuisent à leur intérêt. Le monde entier sait maintenant que ces groupes terroristes sont à la solde occidentale et qu'il est donc impossible que ces terroristes attaquent directement les installations des multinationales. Le même schéma a été mis en place au Moyen-Orient, surtout en Syrie ou encore en Irak, mais ce fut un échec, car ce qui n'était pas prévu au programme, c'est qu'un axe de la résistance a été mis en place pour combattre justement ce terrorisme.
Au Kenya, grâce aux efforts du conseiller culturel de l'ambassade iranienne, des films, des divers livres historiques et culturels, des produits artisanaux iraniens et de belles images de divers sites historiques et touristiques de l'Iran ont été projetés à l'occasion des célébrations de Nowruz à Nairobi.
La 5G disponible au Kenya, l'opérateur de téléphonie mobile Safaricom s'apprête à lancer cet ultra haut débit sur le marché un an après sa phase expérimentale. En cette période de coronavirus, l'initiative aidera notamment en matière de télétravail. En raison de la COVID-19, nous avons constaté que de nombreux clients souhaitaient travailler à domicile, que des travailleurs commencent à faire de leur domicile leur bureau, de sorte que le travail ne soit plus un lieu, mais un espace, explique Peter Deguois, le PDG de Safaricom. Avant la 5G, le leader de la téléphonie mobile a réussi la révolution de la monnaie électronique au Kenya. À travers son produit, le MPSA, lancé en 2007, près de 44 milliards de dollars de l'économie du pays passent par ce système. L'opérateur veut l'étendre au-delà des frontières kenyanes. Un nouveau challenge donc pour Safaricom qui avait, grâce au lancement de la 4G en 2015, vu ses revenus d'État passer de 17,9 milliards de shillings kenyans à 40,6 milliards de shillings en 2020. En 2019, le président de la République d'Ouganda, Yoweri Museveni, exprimait son désir de faire du secteur spatial un pilier du développement national. Une première action stratégique est annoncée dans cette optique. Réuni au Conseil des ministres lundi 22 mars, le gouvernement d'Ouganda a approuvé la proposition de construire une station satellite dans le pays. Cette infrastructure technologique constituera un investissement stratégique de l'État pour développer les capacités spatiales nationales de manière bien coordonnée et harmonisée. Selon Judith Nabakuba, la ministre des Technologies de l'Information et de la Communication, cette station satellite aidera l'Ouganda à tirer parti des sciences et des technologies spatiales pour le développement durable. Elle permettra au pays d'accéder à des informations technologiques indispensables à la planification et à la prise de décision pour des besoins sociaux, économiques, politiques et environnementaux. L'investissement de l'Ouganda dans le secteur spatial rentre dans le cadre des engagements pris par le président Yoweri Museveni d'en faire un pilier du développement national. C'était lors du sommet Russie-Afrique tenu à Sochi en octobre 2019. La satisfaction de la croissance de la demande est l'un des défis du secteur électrique africain. Pour éviter ce type de problème, la Zambie vient de se doter d'une stratégie de croissance électrique sur les 3 prochaines décennies. La Zambie vient de lancer une stratégie nationale visant à accroître sa production électrique. Ce plan de ressources intégrées sera mis en œuvre au cours des 30 prochaines années. Son élaboration a été rendue possible par une subvention de 1,78 million de dollars allouée par le gouvernement britannique. Selon Mathieu Kouva, le ministre de l'Énergie, ce plan intègre les évaluations des ressources énergétiques disponibles et des opportunités en matière de demande. Cela est primordial pour satisfaire la demande en électricité du pays, tout en maintenant les objectifs nationaux en termes d'équité sociale et de durabilité de l'environnement, a affirmé le responsable. Le plan de ressources intégrées réduira aussi à court et à moyen terme le coût de fourniture des services électriques, assurant ainsi au pays les ressources nécessaires pour attirer des investisseurs. La ville de Tamale, la région du nord du Ghana, est considérée comme la plaque tournante des échanges commerciaux avec bien d'autres États de la CEDEAO, mais elle ne bénéficie pas pleinement de son potentiel agricole, faute d'infrastructures routières. Ce que le gouvernement envisage de corriger. La représentation ghanéenne du groupe bancaire britannique Standard Chartered et le ministère des Finances ont acté un accord de financement de 55 millions de dollars pour densifier le réseau routier de la partie septentrionale du Ghana. Entériné en juin 2017 et financé dans sa première phase par la Banque mondiale à près de 150 millions de dollars, ce projet du gouvernement ghanéen dénommé Transport Sector Improvement Project, concernait la construction de 200 km de route. La phase concernée par les fonds mobilisés actuellement sera exécutée par QG Construction AB, une holding suédoise spécialisée dans le génie civil.